Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Querelle de chiffres et de budget autour des annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre les violences sexistes. Les associations féministes saluent de bonnes mesures, mais pas suffisamment d'argent débloqué pour les appliquer. La France insoumise cherche à exister au-delà de la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pourtant bien lui, hier, qui a ouvert la convention du mouvement avec un discours fleuve de plus d'une heure, nous l'entendrons. L'onde de choc créée par l'attentat de ce vendredi au Nord Sinaï dépasse largement l'Égypte. C'est ce que nous verrons dans ce journal depuis Israël. Et nous partirons également en Argentine où l'attente des familles de ces 44 marins disparus en mer avec leur sous-marin se transforme en une virulente contestation politique. C'est un catalogue très complet de mesures qu'a donc annoncé hier Emmanuel Macron pour lutter, dit-il, contre ce mal français, cette honte nationale du sexisme ambiant qui nourrit les violences faites aux femmes. Pour faire changer les mentalités et pour mieux accompagner les victimes, le chef de l'État veut former les enseignants et les forces de l'ordre, prévenir le cyberharcèlement, faciliter le signalement des agressions sexuelles. De belles annonces, mais des moyens publics qui ne suivent pas, selon les organisations féministes qu'a rencontré Hélène Masquelier.
Dans son discours, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il débloquerait 420 millions d'euros dès 2018. Pour Caroline De Haas, militante féministe, ce n'est que de la poudre aux yeux.
Le président de la République a répété ce que tout le monde sait, c'est-à-dire le montant du budget dédié aux droits des femmes. Je rappelle que le ministère des droits des femmes est le plus petit budget de l'État, 30 millions d'euros, ça fait à peu près 1 euro par femme. Je ne sais pas comment on fait changer les mentalités et les comportements de 60 millions de personnes dans ce pays sans aucun euro supplémentaire.
Pour ce qui est de l'accompagnement des victimes, un signalement en ligne sera notamment créé dès le début de l'année, permettant aux femmes de contacter des policiers spécialement formés 24 heures sur 24, une mesure qui paraît superflue à Madeleine Da Silva, adjointe à la mairie des Lilas.
Il faut aussi permettre aux femmes qu'elles puissent être entourées, qu'il y ait toujours des personnes physiques qui soient là auprès d'elles, qui puissent les accompagner. Donc oui à l'innovation, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de moyens mis pour que les associations puissent faire leur travail.
Autre exaspération, le mot « délation ». Employée à plusieurs reprises par le président pour parler des femmes qui osent parler, Fatima Benomar, porte-parole de l'association Les Effrontées.
Le temps d'un discours, il est quand même parlé 3 fois du mot délation par rapport aux femmes qui parlent. Ces femmes-là, elles ne font pas de la délation, ce sont des lanceuses d'alerte. Ce sont les premières qui, à un moment, brisent la loi du silence. Donc, jeter la suspicion 3 fois comme ça avec ce terme honteux de délation au moment où les femmes osent parler et qu'elles ont peur de ne pas être crues, je trouve ça absolument dramatique.
Finalement, une seule des propositions du président aura vraiment fait l'unanimité, celle de fixer à 15 ans l'âge de consentement minimum à l'acte sexuel. Pour les militantes féministes, il s'agit d'une victoire.
Hélène Masquelier, un projet de loi, sachez-le, sera aussi présenté l'an prochain au Parlement pour allonger à 30 ans au lieu de 20 actuellement le délai de prescription des agressions sexuelles commises sur des mineurs. La politique en France, c'est la convention nationale de la France insoumise qui se poursuit aujourd'hui près de Clermont-Ferrand. Opération remobilisation des troupes après un début de quinquennat Macron marqué par la faiblesse de l'opposition de gauche dans la rue comme au Parlement. Dans son discours introductif d'hier, Jean-Luc Mélenchon a clairement fixé le cap sur les élections européennes de 2019. Sophie Delpont.
Un discours d'1h17 pendant lesquels Jean-Luc Mélenchon place le combat sur le terrain européen notamment, allant même jusqu'à théoriser un bras de fer entre la Commune et l'Europe.
Ce pouvoir qui applique la feuille de route de la Commission européenne est hostile à la commune, à l'existence des communes, au profit d'entités massives, des agglos, des super agglos, que sais-je encore, dont personne ne sait où sont les gens qui les composent. Or, la commune est l'instance à laquelle nous ne renoncerons jamais et pour laquelle je vous appelle à une lutte acharnée, consciente, permanente pour la protéger et la défendre.
Il pousse les militants à s'impliquer dès aujourd'hui pour préparer les prochaines élections européennes, celles de 2019, face à Emmanuel Macron.
Oh, ça va être difficile. Vous avez vu comment Zorro en personne a réglé le problème des travailleurs détachés. Regardez par ici, ne regardez pas là. La carabistouille, l'embrouille, l'enfumage.
À la sortie, les militants sont partagés. Aurélien est étudiant à Lille. Il se sent galvanisé par ce discours.
Il redonne de l'énergie, il redonne de l'espoir et qu'ensuite les gens vont revenir sur le terrain regonflés à bloc.
Samuel est médiateur culturel au chômage. Il en a assez de la théâtralisation de la politique.
Nous, en fait, on est des citoyens. Moi, je ne suis pas écouté le discours. On essaye de personnifier toujours comme si on était là à aller voir un gourou. faut accepter que nous sommes des esprits libres. J'ai passé plus de temps à échanger avec les autres membres des groupes d'action. Nous, sur le terrain, on est là pour œuvrer.
Après la théorie hier, atelier pratique aujourd'hui avec des formations aux techniques de terrain pour l'action militante.
Sophie Delpont qui signe également un dossier très complet sur ce second souffle que se cherche la France insoumise. C'est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Le temps des funérailles dans le nord du Sinaï égyptien où l'on enterrait hier les 305 victimes du terrible attentat de vendredi. Une trentaine d'hommes armés portant bannière du groupe État islamique qui avait encerclé une mosquée soufie avant d'y faire exploser une bombe et d'ouvrir le feu sur la foule. L'Égypte a lancé les représailles depuis vendredi contre les foyers de Daesh dans la région, mais craint aussi les connexions plus larges des djihadistes. Pour preuve, la frontière très stratégique avec la bande de Gaza est restée fermée hier alors qu'elle devait rouvrir pour 3 jours dans le cadre du processus de réconciliation palestinienne parrainé par le Caire. En Israël, c'est une correspondance de Marie Semelin.
Après une courte ouverture la semaine dernière, le point de passage de Rafah devait de nouveau ouvrir ses portes ce samedi pour 3 jours, mais il reste clos jusqu'à nouvel ordre. Une déception pour les Gazaouis qui traversent une grave crise humanitaire et attendent désespérément une porte de sortie de l'enclave. En plus du blocus israélien en vigueur depuis 10 ans, depuis des années, la frontière avec l'Égypte n'ouvre que de manière sporadique. Et il y a encore moins d'un an, l'Égypte dénonçait sa porosité en accusant le Hamas de connivence avec les djihadistes du Nord Sinaï. Le pays détruit alors des tunnels gazaouis qu'il soupçonne de servir aux combattants du groupe État islamique allant et venant entre l'Égypte et Gaza ou pour du transfert d'armes. Mais désormais la donne a changé. L'Égypte veut regagner son influence dans la région. Le Hamas est lui en quête d'alliés et a accepté de renforcer la sécurité à sa frontière avec notamment la création d'une zone militaire fermée dans l'espoir que l'Égypte la rouvre de manière permanente. Dans le cadre du processus de réconciliation palestinien, le gouvernement Al-Sisi a conditionné cette réouverture au transfert de pouvoir effectif entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas. Le carnage dans une mosquée du Sinaï vendredi vient compliquer des tractations déjà difficiles. Et ces jours-ci, c'est un nouvel espoir déçu pour les habitants de Gaza.
La situation reste très tendue ce matin aux portes d'Islamabad, la capitale pakistanaise, où des militants islamistes affrontent les forces de l'ordre pour la 2e journée consécutive. Ils réclament la démission du ministre de la Justice accusé de blasphème. Hier, la tentative de dispersion de leur campement qui bloque l'accès à Islamabad a fait au moins 6 morts et 230 blessés. En Argentine, plus le temps passe et plus la polémique monte. Elle concerne le sort de ce sous-marin porté disparu depuis la semaine dernière avec 44 militaires à bord. Une avarie électrique avait été signalée quelques heures avant que le contact ne soit définitivement perdu. Et les familles des marins disparus accusent désormais l'armée argentine et l'actuel gouvernement d'avoir laissé le sous-marin San Juan à l'abandon sans entretien suffisant. La polémique devient donc politique, Caroline Vic.
Pour les Argentins, l'armée n'a pas toujours été synonyme de défense du peuple. Les dictatures vécues ont fait qu'au retour de la démocratie, les gouvernements successifs ont peu investi dans leur armée. En 2008, dans le cadre d'une politique de récupération de l'industrie navale sous les Kirchner, le sous-marin San Juan subit des réparations durant 6 ans, un coup de jeune qui coûte à l'État 20 millions de dollars. Mais en 2014, lors de sa période d'essai, un incident a lieu à bord du sous-marin, un problème électrique qui oblige les techniciens à effectuer des réparations supplémentaires. Finalement, le sous-marin est livré à la marine en 2016. Selon le président, hier, lors de son allocution, le San Juan était en parfaite condition pour naviguer. Mais cette semaine, les familles des 44 militaires accusent les différents gouvernements d'avoir délaissé leur armée et obligé leurs soldats à travailler dans de misérables conditions. Des députés ont également accusé le président Macri de ne pas avoir réalisé l'entretien nécessaire du San Juan, malgré de nombreux avertissements. Le chef de l'État et son ministre de la Défense, qui se trouvent dans une situation politique délicate entre les critiques sur leur mauvaise communication et à présent les accusations sur l'état du San Juan.
Caroline Vic pour France Culture en Argentine où les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver cette épave du sous-marin San Juan. Recherche compliquée par les conditions météo qui complique également. Du côté de la météo, justement, en France, le coup de froid se confirme pour ce dimanche. N'espérez pas plus de 2 à 9 degrés cet après-midi sur la moitié nord, de 1 à 11 sur le sud, le tout sous un ciel plutôt dégagé, avec des averses tout de même à prévoir sur la Normandie, la région parisienne et la Picardie.